RMC, les grandes gueules.
J'ai forcé le trait, j'ai exagéré, mais pas tant que ça. Quand on se réfère au témoignage qu'on a entendu ce matin sur RMC avec Apolline de Malherbe, les musulmans ont l'impression d'avoir le sida. On doit changer de nom, on doit changer de prénom. C'est ce qu'a dit Grégoire lorsqu'il s'est expliqué avec Apolline de Malherbe. Écoutez.
J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage.
D'accord.
J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Et à un moment, on en a marre qu'on vous renvoie à vos origines, à votre religion. Aujourd'hui, quand je me présente aux gens, je me présente avec le prénom que j'ai choisi, Grégoire. Qui me permet, en fait, de pas faire déballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Mmh. Est-ce que je suis musulman? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste? Est-ce que j'ai des bouteilles de gaz dans mon coffre? Quand je passe des entretiens d'embauche, quand au bout d'une heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit, mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine? Ah oui, vous êtes croyant? Vous faites le ramadan? Et si on vous traite de bougnoule, ça vous pose des problèmes au boulot? Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le sida. Et on le cache.
Voilà, témoignage assez fort ce matin d'un homme en colère, Grégoire, qui doit cacher son prénom et qui raconte son vécu. Donc c'est pour ça que nous voulions en parler avec vous, bien sûr, dans les GG, dans les grandes gueules. Alors est-ce que vous le comprenez? Est-ce que ça vous est arrivé? Joël, Jérôme, Bruno. Bruno, je te voyais lever les yeux au ciel en même temps que tu l'écoutais.
Ouais, parce que j'ai l'impression que de la façon qu'il parlait, je suppose qu'il a été meurtri, évidemment, ce garçon, pour changer de prénom. Mais en même temps, je pense pas que ce soit systématique. Moi, il faut pas faire une généralité de tout. Au même titre que les entrées de boîte, c'était à un moment donné avec, ou les CV anonymes, comme on les a mis en place à un moment donné. Je crois qu'il faut pas faire une généralité de tout. Et j'entends que ce monsieur ait été choqué par le comportement des gens qui ont voulu l'employer. Mais je pense pas qu'à chaque fois qu'on veuille embaucher quelqu'un, moi j'embauche des jeunes dans mon assos et j'ai des amis qui embauchent, on demande pas au gars s'il est intégriste, s'il est musulman ou s'il est croyant de je ne sais quoi, enfin bref, voilà, n'allons pas encore dans les extrêmes, je pense pas que ça soit
pas
une généralité.
D'un témoignage, une généralité.
Oui, exactement, c'est exactement ça.
Joël ?
Alors évidemment, heureusement encore que tous les entretiens ne se passent pas comme ça. Néanmoins, il y en a un certain nombre qui se passent comme ça.
Oui.
Je suis pas musulmane et pourtant on m'a posé la même question. Je me rappelle d'une expérience où j'attendais dans la salle que le recruteur vienne nous chercher. Il y avait moi, un monsieur et une autre dame. Les deux étaient blancs et donc elle est arrivée. Et elle avait une feuille. Et elle a dit Joël Dagosséry. Donc elle m'a pas regardée. Elle a regardé la dame qui était à côté. Et donc je me suis levée et elle a eu un mouvement un peu de ah, c'est elle. Bon, c'est pas grave, ça arrive. On a fait l'entretien et à la fin de l'entretien, elle a pas pu s'empêcher de me dire sinon votre nom c'est
Venez d'où? C'est
de quelle origine? C'est italien? Je lui dis non, pas du tout.
Dagosséry.
Oui, parce qu'en fait, comme
ça
c'est pas très
France.
C'est pas dans l'imaginaire de gens, ça fait pas africain selon eux, alors que c'est un prénom, c'est un nom de famille africain, vraiment typiquement ivoirien.
Ah ouais.
Elle m'a demandé, ça vient d'où? Je lui ai dit, Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, j'aurais pensé italien ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, non, pas du tout. Donc, elle n'a pas pu s'empêcher parce qu'elle a été étonnée que ce soit moi, Joël Dagosséry. Deuxième expérience aussi que j'ai vécue. Et là, c'était dans du recrutement. Donc, on avait reçu, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Donc, les CV arrivaient par courrier. Et donc, la personne qui ouvre les courriers reçoit. Et moi, j'étais là, je récupérais le courrier au travail. Et elle lit le CV et c'était un nom arabo-musulman, comme on dit. Et donc, c'était un monsieur qui demandait une alternance, qui avait un master. Et elle a dit, non, ça, on prend pas. Et elle l'a mis à la poubelle. Je l'ai récupéré, je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi? Je lui ai dit, mais il bosse ce type. Il fait des études. Il est en master. Tu viens de mettre son CV à la poubelle. Enfin, j'étais outrée. Et elle a dit, ouais, mais ceux-là, on n'en veut pas. Je lui ai dit, mais c'est horrible. Je l'ai signalé à la direction parce qu'en fait, c'était pas la pratique de l'entreprise, pas du tout. Mais tu te rends compte? Je me suis dit, mais combien de CV elle a mis à la poubelle comme ça? C'est incroyable. Et franchement, c'est hyper choquant. Donc, moi, je comprends le témoignage de Grégoire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le rencontrent. Et sans compter ceux qui partent, parce que ça aussi, il faut en parler, ceux qui partent à l'étranger parce qu'en fait, ils en ont assez du climat français. Il y a un phénomène que je rencontre également qui n'existait pas avant. Par exemple, avant, quand vous aviez la famille qui faisait ses études, pour moi, en Côte d'Ivoire, elle venait terminer ses études en France. Oui. Là, c'était quasi systématique pour les personnes qui faisaient des hautes études, médecine, ingénieur, etc. J'en vois quasiment plus. La dernière génération, donc génération 90, parce que j'ai un cousin, ils partent directement direction Canada, États-Unis. il y a plus ce passage par la France. Pareil pour les Antilles. Attention, beaucoup d'Antillais venaient ici terminer leurs études. Eh ben, pareil, ils commencent à directement faire une demande pour aller Canada, États-Unis. Et aujourd'hui, on le voit pas, ça a l'air un peu transparent, mais on va regarder les résultats dans 15 ans, dans 20 ans de cette expatriation, entre guillemets, ou de ces talents qui ne choisissent plus la France et qui choisissent Canada, États-Unis ou Suisse.
Jérôme.
Moi, dans le secteur de la santé, c'est pas un problème que l'on connaît vraiment. Ça doit exister, certainement. Maintenant, on a vraiment une très forte proportion de gens, les soignantes, les infirmières, les médecins, qui sont d'origine étrangère. On a les fameux PADHU, les gens qui sont les praticiens hospitaliers à diplôme en Union européenne, dont on sait que le président Macron s'était engagé à arranger la situation puisqu'ils sont encore sous-rémunérés par rapport à leurs consoeurs ou leurs confrères qui ont leur diplôme, eux, d'origine européenne. Mais nos établissements, en particulier les hôpitaux périphériques, ne tournent que grâce à eux. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où tu as 90% de diplômes hors Union européenne. Donc, dans le monde de la santé, il y a peut-être moins, et c'est bien logique.
Il y a des Turcs aussi, hein.
Peut-être moins cette problématique, mais qui doit certainement exister et qu'il faut dénoncer. On se souvient quand même, il y a eu des campagnes de CV comme ça qui étaient,
oui, c'est ben anonyme,
qui étaient masquées de CV anonymes, quoi. Oui. C'était déjà cette problématique qui était mise en avant, quoi. Et qui a tendance probablement à s'accutiser en France, ouais.
En fait, le problème, c'est que ça manque un peu d'études, pardon. Hein. Oui, pas d'un témoignage, en fait, en généralité. C'est comme l'histoire, je suis sûr qu'effectivement, il y en a qui fuient la France, mais on ne sait pas, il y a un livre qui est sorti, il n'y a pas un chiffre. Donc, c'est que du ressenti.
Oui, c'est ça.
Moi, c'est ça qui me gêne un peu. C'est-à-dire que, il faut quand même, à un moment donné, que ça soit avéré, qu'il y ait des études, des chiffres, qu'on sache précisément de quoi il s'agit. Si c'est uniquement du quartier, pareil, sur du ressenti, bien sûr, sans doute, je pense que les gens quittent la France, c'est pas forcément des questions de racisme, c'est question aussi de problèmes d'ascenseur social en France. On sait très bien que l'ascenseur social est cassé, que l'école ne fait que reproduire les inégalités, qu'il faut mieux être enfant de cadre et surtout de prof pour réussir à l'école, et que l'école, on a ce mot d'égalitarisme, etc. En fait, ne contrairement à ce qu'on pense, ne corrige pas tout ça. Elle devrait corriger tout ça, ne corrige pas. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ça soit toujours lié, ça doit exister, bien sûr. Le racisme existe.
Il y a quand même une influence de ce qui se dit sur les ondes et sur certaines chaînes à longueur de journée, certaines chaînes qui en ont fait commerce de ça, quoi. Forcément, tu fragilises les gens dans leur façon de voir l'autre, quoi. Et donc, dès l'instant où ils voient quelqu'un qui porte un nom à consonance étrangère, ils ont l'impression qu'il rentre directement dans le prisme qui est renvoyé pour ces chaînes-là.
Oui, mais tout le monde est un peu responsable de ça. Tout le monde est responsable de ça, parce que c'est ça qui est à contradictoire. C'est qu'on est aussi dans un moment où tout le monde veut à tout prix mettre en avant son identité.
Oui.
Moi, je suis d'une génération où je ne savais pas qui était musulman, juif, catholique. On ne parle jamais de religion. Maintenant, il faut à tout prix savoir si tu es musulman, juif, catholique ou pas, machin. Donc, on ne peut pas à la fois vouloir à tout prix vouloir mettre son identité en avant et penser que cette identité te résume à complètement dans ta tout. Et puis derrière, être surpris qu'il y a des préjugés qui arrivent et des rejets. Moi, je suis assez d'accord
que
c'est assez nouveau aujourd'hui qu'on définisse par exemple les Arabes comme des musulmans, parce qu'il y a des Arabes qui sont pas musulmans, mais maintenant aujourd'hui, les Arabes c'est musulmans. Pourquoi on en est arrivé là?
Non, arrête Olivier, là c'est comme si en fait c'est la faute de la victime. C'est un peu comme si moi je vais à la police.
Non, j'ai pas dit la faute, j'ai dit qu'il y a des contradictions.
Le type m'a violée, bah ouais, mais vous comprenez madame, avec la mini jupe que vous portez, c'est exactement le même raisonnement
non,
que
c'est pas
que
du
tu
tout ça.
Tiens.
Non, si, c'est pas si, c'est
les discriminations.
Si tu veux t'intégrer quelque part, à un moment donné, il faut aussi si une certaine être... forme d'assimilation.
Oui, et si tu ne veux pas être violé, à un moment donné, faut pas mettre une mini jupe.
Savoir qu'il y a même
le parent de Aldo Platini, il a appelé son fils Michel, il l'a pas appelé d'un prénom italien.
Ouais.
Mais c'était comme ça à l'époque.
Il faut oui, mais c'est pas vrai que c'est récent ce truc. T'as des gens de la génération par exemple de Mourad, donc qui lui je crois qu'il a 60 ans Mourad et qui explique très bien qu'on voulait pas un arabe pour un appartement ou pour un travail, pas d'arabe. Avant, ça s'écrivait, c'était direct. Aujourd'hui, c'est un petit peu caché. Pas d'arabe chez nous, etc. Donc, c'est pas,
non, mais
c'est pas nouveau.
Il y a toujours des connards racistes.
Oui, mais donc, quand tu dis que c'est parce que maintenant on revendique une certaine identité que ça a apparu,
que s'il y a une contradiction,
c'est pas vrai.
On est dans une revendication. Non, parce que je dis que pendant très longtemps, les immigrés qui arrivaient en France, les vagues italiennes, polonaises, ils prenaient des prénoms français, etc. etc. C'est, le fils d'Aldo Platini s'appelait Michel parce que à l'époque, il pensait que pour mieux s'intégrer, il fallait que la personne ait un prénom.
Ouais, bah, on parle des prénoms. Oui, donc c'est sur la théorie, français. Et sur la théorie de Zemmour.
Mais c'est pas une théorie, c'est une réalité.
Oui, mais
Zemmour,
donc,
il voulait qu'on revienne à ça. Je dis, c'est pas, c'est factuel.
Oui.
Pardon, Coppa, qui était
d'accord.
Le grand-père polonais, il s'appelait Raymond, son père s'appelait François parce que les parents polonais avaient donné à leur fils un prénom.
Oui, mais
français,
pourquoi,
parce
Olivier,
qu'ils pensaient que ce serait la meilleure
Olivier,
façon de s'intégrer.
Parce qu'on a tendance à l'oublier avec le temps qui passe. Mais les vagues d'immigration polonaise, italienne ou espagnole ont vécu un racisme terrible en France. Hein,
oui.
En arrivant, c'est
pour
ça que ça
s'est assimilé.
Donc on a la même chose.
La même chose.
N'oublie pas quand même que notamment les réfugiés espagnols, on les a foutus dans des camps au départ. Hein.
Ouais, ne faisons pas une généralité. Le fait de changer son prénom ou pas,
des prénoms,
moi j'y crois pas tant que ça. Je veux dire, la mixité, si on peut appeler ça, dans les entreprises, elle est présente. Et d'ailleurs, il y a souvent des référents au niveau des ressources humaines qui font attention à ça. Heureusement d'ailleurs.
Mais bien Joël, sûr, on ne dit pas qu'il n'y a aucun musulman qui est recruté en France. C'est vraiment pas le cas.
Oui.
On observe juste une tendance de musulmans qui craignent le fait que. Mais c'est la vérité.
Mais c'est la vérité. Elle se repose sur quoi cette vérité? Moi, j'aimerais savoir.
Mais elle repose sur l'ambiance de la France.
Oui,
elle repose sur la montée du RN. Elle repose quand le musulman est toutes les trois secondes à la une de telle ou telle émission, de telle ou telle journal. Elle repose sur une vérité. Enfin, tu fais que c'est un peu comme la même chose.
Une vérité de quoi?
C'est un sentiment d'insécurité ou sécurité. C'est la même chose.
Justement, dans un instant.
On peut pas s'étonner que les musulmans craignent de ne pas être recrutés ou aient peur de
c'est comme
de
le sentiment de sécurité. C'est un sentiment de quoi? Explique-moi. Et tu vas dire, il faut les chiffres. Moi, c'est les chiffres.
Alors, en fait, dans un instant, on aura
deux
témoignages, deux personnes avec nous. Yaya, du côté des Bouches-du-Rhône, qui est chef d'entreprise, qui n'a jamais voulu changer son prénom. Ça n'a pas toujours été simple. Et on aura Bertrand, dont le premier prénom est africain. Mais il est là en tant que Bertrand au 32-16. Allez, à tout de suite avec les GG. Grande gueule avec vous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour témoigner avec Bertrand, avec Yaya. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue. Discrimination, est-ce que vous avez déjà, comme Grégoire, changé de nom ou pas? Alors, dites-nous.
Alors, mon histoire est assez particulière, c'est que j'ai changé de nom sans le vouloir.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que donc j'avais mon premier prénom qui était un prénom africain et le deuxième prénom qui était un prénom français. Et ben j'avais une carte de résident en France donc depuis des années, donc j'avais toujours eu dans cet ordre-là, mais j'ai fait ma demande de naturalisation française en 2005. Et en 2005, au moment où j'ai reçu les éléments de ma naturalisation, mon deuxième prénom Bertrand est devenu mon premier. Et mon nom africain et mon prénom africain est devenu le deuxième.
C'est quoi le prénom africain qu'on comprenne?
Alors, j'ai pas voulu le donner exprès parce que c'est un sujet qui est tellement... Ça a été dur pour ma mère de l'accepter, l'idée, parce qu'elle a voulu que je fasse toutes les démarches pour que ça reparte dans l'autre sens et autre, tout ça. Donc, je préfère ne pas le donner ici pour pas qu'elle me reconnaisse, je sais qu'elle est côté RMC, donc voilà. Donc du coup, je préférais ne pas le donner.
Mais est-ce que du coup, vous pensez que ça a facilité les choses dans votre carrière, dans votre vie ou pas alors?
Je vais être honnête, ça a changé beaucoup de choses. Mais clairement, ça a changé énormément de choses. Parce que clairement, le deuxième prénom n'apparaît que sur, on va dire, sur mon carte d'identité, mais le reste... ma carte vitale ou autre, on ne voit que le prénom Bertrand. Lorsque j'ai postulé de nouveau, j'ai supprimé mon ancien LinkedIn, j'ai créé un nouveau LinkedIn avec ce prénom, j'ai recréé sur l'APEC où j'ai recréé un nouveau compte avec le prénom Bertrand, et ben ça m'a permis aujourd'hui d'avoir accès ou passer des étapes professionnelles.
Mais vous pensez, alors, vous avez 47 ans, ça s'est produit il y a quelques années, vous pensez qu'aujourd'hui c'est toujours aussi problématique ou pas pour la nouvelle génération?
Ben, je pense même que ça s'est empiré. Je serais d'accord avec Joël en disant que l'ambiance, on va dire, actuelle, ou la libération de la parole un petit peu sur certains sujets, on ne demande pas que ça soit caché, sur certains sujets, fait que, ben, je pense que ça devient encore encore plus dur pour la nouvelle génération. Et je peux comprendre et je peux entendre que certains puissent se dire bah, j'ai fini mes études, bah, je vais aller au Canada, parce que j'ai la chance de pouvoir y aller régulièrement.
Alors Bertrand, puisque vous nous avez raconté votre expérience personnelle, je vous propose de rester et d'écouter Yaya qui est dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes chef de projet, Yaya est chef d'entreprise. Bonjour Yaya.
Bonjour.
Alors vous, en revanche, vous n'avez jamais changé de prénom?
Non, j'ai jamais, parce que je suis très fier de mon prénom. C'est ma grand-mère qui me l'a donné, donc...
Alors, c'est de quelle origine, Yaya?
Je suis marocain.
D'accord. Et est-ce que ça vous a posé des problèmes pour avancer professionnellement?
Alors, oui, juste pour expliquer rapidement, moi, à partir à 20 ans, je suis parti vivre en Angleterre pendant 7-8 ans. Oui. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert ma société. On cherchait un partenaire, je me suis associé avec une personne, et on a cherché un partenaire financier. Donc, on a appelé plusieurs banques. C'était moi qui étais en charge d'appeler les banques, donc j'ai appelé les banques. Et donc à chaque fois, on me refusait les rendez-vous parce que on me disait que la société que je voulais ouvrir, ça ne correspondait pas. En fait, c'était un milieu qui était trop dangereux dans le sens financier. Il y avait eu trop de fermetures. Et donc, on me donnait pas suite. Et donc, j'étais un peu dépité. Je dis, bon, ben vas-y, appelle-toi. Et quand il a appelé, eh ben, il a eu les rendez-vous. Mais vraiment les mêmes banques. Les mêmes banques. Je peux pas citer les banques parce que voilà, mais c'est vraiment les mêmes banques. Alors, je veux pas glorifier le système anglais, mais c'est vrai que mes premières expériences professionnelles étaient en Angleterre et j'avais pas été confronté à ça. Pas du tout. Et du coup, quand je suis revenu, je me suis même pas posé la question de ça, est-ce que ça allait poser un problème.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a une mentalité qui est plutôt rétrograde en France par rapport à ça, quoi.
C'est ce que je trouve.
Raciste.
Je pourrais pas dire que la France est raciste parce que je le vois au quotidien et à travers le travail que je fais, je côtoie beaucoup de gens de divers horizons et de manière générale, dire que la France est raciste, ça serait vraiment trop fort. Qu'il y a une montée de la différence, oui, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a du racisme. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que musulman, il est de plus en plus dur de se plaindre de ça sans pour autant être accusé de victimisation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Chaque fois qu'on veut parler de notre religion ou de dénoncer quelque chose, ben la première chose qu'on nous dit, ouais, mais vous, allez, la victimisation. Alors qu'on veut juste notifier ce qui se passe dans notre vie au quotidien. On n'est pas, attention, hein, on n'est pas les plus à plaindre. Et de manière générale, on vit quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que on sent que dès que l'on touche dès qu'on veut mettre en avant notre religion ou autre chose, ben on est directement catalogué.
Mais pourquoi mettre en avant sa religion? C'est ça aussi. Pardon, mais pourquoi la religion a pris autant d'importance dans la vie publique? La religion, c'est une affaire privée, c'est un choix intime. Et pourquoi est-on dans une société où on met aujourd'hui autant en avant les religions? Moi, je pense que ça crée beaucoup plus de conflits et de problèmes qu'autre chose. Si chacun, finalement, était beaucoup plus discret et pudique là-dessus, je pense que ça irait mieux.
Je pourrais entendre ça, mais alors pourquoi on nous renvoie toujours à nos origines
et je suis d'accord, c'est insupportable de renvoyer toujours les gens aux origines, mais il faut aussi à un moment donné, il faut aussi dépasser ses origines. On n'est pas seulement une origine et on n'est pas seulement
pas la religion,
on n'est pas seulement une origine, on n'est pas seulement on est né quelque part, mais quand on est citoyen français, justement, on dépasse son origine et on est citoyen français
à égalité. Non, mais dis ça à la banque puisque monsieur Yaya, il a essayé de dépasser son origine, il a eu des problèmes, donc c'est marrant quand on nous dit à chaque fois faut dépasser, on les dépasse nos origines. Et je pense que il est parti en Angleterre, mais quand tu es là et que on te dit c'est bloqué pour toi et que c'est ton pote qui appelle et que c'est ouvert, excuse-moi, t'as beau dépasser tes origines, dis à l'autre de dépasser mes origines, pas à moi. Donc je sais pas, Yaya, si dans votre Yaya, il est toujours là?
Oui, bien sûr. Oui, mais Yaya, je vous écoute.
Je sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai entendu pas mal de gens aussi dans mon entourage, donc qui ont créé des entreprises et qui pensaient que c'était mieux de s'associer avec une personne blanche pour pouvoir passer certains, voilà. Je crois que j'en ai 4 ou 5 dans ma tête, là, comme ça, qui me viennent, qui ont créé leur entreprise, mais qui se sont dit, vaut mieux que je m'associe avec mon pote blanc, etc. Mais c'est pas grave si tu fais pas grand chose, mais mets-toi dans la société, comme ça, je peux avoir un rendez-vous à la banque, un prêt par-ci, etc.
Sûrement, mais n'en faisons pas encore une fois une généralité.
Ce que tu ne veux pas comprendre, c'est que c'est une stratégie pour naviguer dans une, oui. des gens mettre en place des stratégies pour pouvoir naviguer, parce que en fait leur seule volonté et leur seule capacité de travail ne suffit pas, et ça c'est un problème. Excuse-moi, je dis pas que c'est partout, bien sûr, mais ça existe.
Yaya, comme on avait Bertrand à l'instant, 47 ans, vous avez 40 ans et vous pensez que la nouvelle génération sera plus enclin pour certains à vouloir partir qu'à rester, à briser les tabous et le plafond de verre ici en France, alors
je trouve qu'on essaie de se battre de plus en plus, mais par contre, pour revenir à ce qu'a dit Joël, ça dépasse même le cadre professionnel, ne serait-ce qu'un couple mixte, ouais. où avoir une personne avec le nom français et une personne avec un nom africain, maghrébin ou africain, eh bien on mettra d'abord en premier le nom français, et ça c'est pas normal. Parce que comme vous dites, on est français, on est tous français. Moi, je suis né en France, je suis très fier de français. Quand j'étais en Angleterre, j'ai jamais dit je suis marocain.
Oui, alors là, j'ai le contre-exemple très récent, très proche de moi, d'un jeune homme qui est bien François de ses français, et à qui on a dit t'as pas les codes, oui. tu peux pas venir chez nous, c'est pas possible. Et à qui et, parce qu'il était bien français de souche et il n'avait pas les codes pour aller dans une famille qui était de l'autre côté de la Méditerranée.
De sa copine
à qui on a dit non,
arrive aussi.
Ça s'arrête là.
Le rejet est universel.
Ça a été la fratrie ou le pater familias qui a dit non, c'est pas elle qui décide et c'est pas toi qui décides non plus. Vous voyez aussi, Yaya. Donc on a exemple et contre-exemple.
Mais ça c'est évident. Je suis d'accord avec vous et je n'ai jamais dit et je ne pense pas que le racisme n'est que dans un sens.
Bien sûr. Tout ça pour dire qu'on arrive finalement, comme le disait Olivier, on était dans une société qui était la société française, qui était plutôt universaliste, où on se fondait dans un modèle.
Et maintenant, on va vers du communautarisme.
On arrive plutôt vers un modèle communautaire qui permet finalement une existence un peu individuelle et égoïste, où on sort pas de ses codes finalement.
Moi, je pense qu'il faut justement, si on veut être citoyen français, on dépasse ses origines, on a chacun des parcours, mais on n'est pas pieds poings liés à ça aussi, c'est-à-dire que heureusement on
merci
est
Yaya, merci Bertrand, fin de la discussion.